Sous les jupes des films.
Une émission pour cinéphiles compulsifs de Julien Védrenne.
Play it once, sir. For all time's sake.
Sarah Connor.
My name is Bond. James Bond.
Vodka?
Don't you use olives?
Perfect. Cheers.
Cheers.
Auditeur de Radio G, qui adorait les films catastrophes d'après-guerre avec une météorite qui vient bouleverser la vie des habitants de la bourgade de San Angelo près d'un désert, bonjour. Bienvenue dans l'émission qui donne envie de revoir les films que vous n'avez pas encore vus. Aujourd'hui, nous observons une voiture du ministère de l'Environnement qui s'arrête en plein milieu du désert, mais sur une route rocailleuse. L'homme qui descend s'appelle Ben. C'est un géologue. Pour l'heure, il remet de l'eau dans le radiateur de sa voiture. Radiateur qui fuit comme nous pouvons le voir. L'eau s'échappe et tombe sur un morceau de pierre noire ébène qui se met aussitôt à fumer. Le cataclysme n'est pas loin et il se rapproche encore plus quand ce même Ben récupère un autre morceau de roche pour l'étudier. Il ne connaît pas cette pierre et c'est normal puisqu'elle provient d'une météorite. La cité pétrifiée de John Sherwood, c'est maintenant. Nous sommes en 1957 dans un film à moyen budget en noir et blanc sur une idée de Jack Arnold. Ce même Jack Arnold qui a réalisé La créature du lac noir, dont une seconde suite, c'est-à-dire un troisième film, a été tournée l'année précédente par John Sherwood, aussi réalisateur de ce film-là. Jack Arnold, c'est un maître dans l'art de réaliser des films angoissants. J'ai du mal à parler, comme on le dira plus tard, de films catastrophes. Pourtant, cette forêt pétrifiée en est bien une. On lui préférera cependant son titre en américain, The Monolith Monsters. C'est bien plus explicite. Si l'histoire débute avec un scientifique qui ramène dans son bureau une pierre étrange qui va lui échapper, le spectateur comprend très tôt pourquoi. Tout d'abord, le prologue nous sert une dissertation sur les météorites et leur impact sur Terre, tout en nous expliquant que les deux tiers de la surface du globe, ce n'est que de l'eau. Là, le météorite du film, il s'est écrasé en plein désert californien. On peut se dire que les Américains n'ont vraiment pas de chance. Ben, Ben non plus. Parce qu'il récupère un morceau de cette roche, il commence à l'étudier et il va se coucher. Là-dessus, un orage gronde, des fenêtres claquent, une éprouvette avec de l'eau distillée vacille. Au petit matin, son collègue Dave découvre Ben complètement pétrifié. Il ne le sait pas, mais nous le savons. La roche de la météorite s'est multipliée. Alors, qui c'est Dave? Ben, Dave, il est amoureux de Cathy et il a pour bon ami un journaliste et un inspecteur de police. Ensemble, ils vont commencer à enquêter. Enfin, pas tout à fait ensemble, puisque Cathy emmène des enfants dans le désert. Et c'est là que la petite Jenny Thompson embarque un autre morceau de roche. On la verra, elle, plus tard, la jeter dans une grande bassine en bois remplie d'eau pour la nettoyer. Geste logique pour une enfant de son âge à qui sa mère a dit de ne pas ramener de choses sales dans la maison. Mais geste lourd aussi de conséquences. Et oui, la roche de météorite, c'est un peu comme un gremlins. Quand on la mouille, ça se multiplie. Mais comment ? Le film s'attarde un peu sur la pétrification de Ben, puis sur celle partielle de Jenny. Il n'hésite pas à emprunter au thème mythologique de la cocatrice ou de la méduse. Alors, Ben a-t-il vu ce qu'il ne devait pas voir? Non, car nous allons ensuite faire quelques découvertes scientifiques qui gravitent autour de la silice, oligo-élément nécessaire à la spasticité de notre corps. Mais les compétences de Dave, elles ont des limites. La survie de Jenny aussi. 8 heures, c'est une estimation. Une course contre la montre et contre la mort s'ensuit. Et il faut trouver de l'aide. Le timing est serré. D'autant plus serré qu'il commence à pleuvoir. Le plan ne tolérera pas d'accroc. Heureusement pour Dave, hormis les conditions climatiques, tout semble aller dans le bon sens. Mais comme le disait son ex-collègue Ben, il y a des choses qui nous échappent, mais rien de nouveau.
Incredible. As if someone tossed all the silicates into a single wastebasket.
Some wastebasket. What beats me is it's completely unknown. Nothing like it's been recorded in there.
That could be the answer.
What?
What if it's never been recorded because it hasn't been here to record?
What do you mean?
It's a meteorite, I think.
You're kidding.
Why not, Dave? Its contents tally exactly with the makeup of an aerolite, stony iron meteorite composed entirely of silicates.
It couldn't be a meteorite. We didn't find just this one rock. There's a ton of that stuff in my lab. Hundreds of pieces.
Loin des films fantastiques de Jack Arnold ou ceux entre Boris Karloff et Bela Lugosi, ce film s'inscrit dans une lignée réaliste avec un quotidien balisé qui va être contrecarré par un événement important. L'événement important et extérieur n'est pas tant l'arrivée de cette météorite que les conséquences qu'elle amène bien malgré elle. Ici, pas de combat entre le bien et le mal, juste une question de survie. Et la science vole à la rescousse. L'ambiance dépeinte est clairement ancrée dans le rêve américain. Le ton est à l'insouciance. Tout sourit à la vie. D'ailleurs, il est dit que Dave et Cathy vont un jour se marier. Les événements auxquels ils vont faire face vont resserrer encore plus les liens qui les unissent. Et si on pressent toujours le danger, à partir du moment où les acteurs ont compris l'importance de l'eau, que des scientifiques ont partagé leurs découvertes, tout est plus ou moins encadré. Il faudra néanmoins détruire une vaste construction humaine pour annihiler intégralement le danger et revenir à une certaine normalité.
Mais Julien, qu'y a-t-il sous les jupes de ce film ?
Eh bien Alice, sous la jupe de ce film, il y a l'insouciance qui se confronte à un danger mondial. En 1957, l'Amérique a tourné la page de la Seconde Guerre mondiale, mais pour ouvrir celle de la guerre froide, de la course à l'armement et de la menace nucléaire. Le tout sur fond de conflits idéologiques. 2 ans plus tôt, Robert Aldrich a sorti En quatrième vitesse, d'après une aventure de Mike Hammer, celui-là même qui a été imaginé par Mickey Spillane. Ici, 3-4 individus, tout au plus, ont la survie des États-Unis entre leurs mains. Et la population ne le sait pas, sinon ce serait l'émeute. Les scénaristes ont pensé à tout, car si l'eau permet à la force tranquille monolithique de pousser, de se multiplier, de s'écraser tout en avançant, une solution saline sonnera son glas, solution saline qui doit être à plus de 3%. Mais ça, on le découvrira parce que le café des scientifiques n'est pas bon. Comme toujours, la science avance par hasard. Mais là, heureusement. La cité pétrifiée de John Sherwood, c'est un film catastrophe avec une météorite qui vient perturber une petite ville tranquille californienne. Et c'est en DVD chez Elephant Film. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau film de genre.
C'était Sous les jupes des films, une production Masque Noir pour Radio G. Musique de générique Toops Baby d'après Alain Souchon, natif de Casablanca.
Sous les jupes des filles, c'est aussi les voix d'Alice Tudou et de Philippe Routier.
To be continued.
Bye, Rick.